Mais d'abord, cette entrevue accordée par Marois Risky à l'émission Les Francs-Tireurs, dans laquelle Marois Risky, donc député libéral de Saint-Laurent, a parlé de son enfance, de son père agressif, de son père violent. Marois Risky est au bout du fil. Bonjour, Marois.
Bonjour.
Alors, on va se tutoyer parce que on a appris à se connaître un petit peu au fil du temps. Je vais pas faire semblant. Pourquoi d'abord, Marois, pourquoi vous avez décidé de vous ouvrir comme ça sur l'enfance que vous avez connue?
Ben, c'est arrivé vraiment de façon assez spontanée. Benoît Dutrisac me posait beaucoup de questions sur mes traits de caractère. Pourquoi, au fond, j'étais une femme qui s'affirme, qui prend sa place, qui bouscule? Puis je lui réponds, mais j'ai pas eu le choix, moi, que de me défendre toute seule dans la vie. Puis quand tu dois faire face à ton propre père, mais c'est sûr que très rapidement, tu comprends que si toi-même, t'es pas capable de te défendre, tu n'auras jamais de l'aide de qui que ce soit. Là. L'aide, elle ne vient pas nécessairement là, quand tu es aux prises avec autant de problèmes dans ta maison familiale.
Et donc, ça a amené la question, qu'est-ce que vous voulez dire? Votre père, il vous a fait quoi? Et là, je vous pose la question, votre père, il vous a fait quoi, Marois?
Ben, moi, mon père, visiblement, c'était une personne qui avait des problèmes. Là, puis que des problèmes, fort problèmes de santé mentale, mais... Dans mon cas, à moi, c'était de la violence très physique et psychologique. Moi, il me battait. C'était clair. Puis, à un moment donné, un été, il a décidé que j'y passais puis que j'avais passé ce que j'appelle l'été à la cave. L'été à la cave, parce que très tôt le matin, très tard le soir, il m'enfermait. Et après ça, il descendait. Puis, tu sais jamais à quelle heure qu'il va descendre. Puis quand il descendait, c'était pas pour te dire comment ça va, puis t'amener à manger, c'était plus pour te frapper à coup de bâton, à coup de ceinture, puis t'étrangler, puis j'attends que tu tombes à terre, là. Puis ça, tu sais, des gens qui vont se dire, OK, mais ta mère était où? Moi, ma mère, à l'époque, elle aussi était violentée, puis la violence, c'était physique, elle était aussi verbale, puis elle se faisait dire à tous les jours qu'elle était conne. Puis... Le peu d'espace mental que ma mère avait, c'était pour sauver ma grande sœur qui est déficiente intellectuelle. Elle avait aussi un retard langagier, puis aussi de la schizophrénie. Alors, le peu d'énergie que ma mère avait, c'était tout consacré à ma grande sœur. Et je crois que mon père le savait qu'au fond, il n'y avait pas d'autre adulte qui pouvait venir m'aider, là. Personne.
Vous aviez quel âge à ce moment-là, Marois?
J'étais ma quatrième année primaire vers ma cinquième année.
Donc, 10 ans, 10, 11 ans.
Mm-hmm. Mais ça avait commencé bien avant. Ça a toujours été comme ça. Moi, je me rappelle, j'avais 4 ans quand j'ai dit à ma mère, il faut qu'on s'en aille avant qu'il te tue. Puis, c'est beaucoup plus tard quand que ma mère et moi, quand que tout ça s'est terminé, quand qu'enfin, en fait, mon père est tombé gravement malade. C'est triste de dire ça, mais ça a été grâce à son infarctus quand il a été hospitalisé pendant plus de un mois et demi, deux mois à l'hôpital, qu'on aurait été capable de souffler. Puis là, seulement, j'étais en sixième année. Et c'est là que mon père perd tout. On perd la maison familiale, il perd son commerce, il y a une séparation qui va s'en suivre. Puis cette séparation, ça a été au fond là, d'un grand bénéfice. Ma mère a pu aller à l'école, a pu prendre son envol, s'épanouir. C'est une femme intelligente, mais elle avait aucun outil pour s'aider, là. Zéro outil. Je me rappelle quand j'étais au primaire, un jour, elle s'est inscrite à l'école. Elle est revenue à la maison, mon père avait barré la porte, elle avait changé les clés. Elle ne pouvait pas rentrer à la maison, là. Et il voulait vraiment pas que ça soit une femme épanouie. Puis plus tard, quand on a eu la discussion, parce que moi, au cégep, à un moment donné, genre, je suis revenue sur la discussion avec maman, j'ai dit, pourquoi t'es pas partie plus tôt? Puis Morgane, elle dit, Marois, j'avais nulle part où aller. T'sais, à l'époque, là, ma mère, elle savait même pas écrire son nom, là. Elle pouvait même pas signer, là. Donc, puis moi, c'était pour ça que pour elle, c'était tellement important qu'on aille à l'école. Elle dit, moi, là, elle dit, allez à l'école, je veux pas que vous soyez comme moi. Puis pourtant, moi, c'est ma grande héroïne parce que tout ce qu'elle a vécu, est arrivée au Québec, elle était adolescente, elle n'avait rien à part des rêves. Elle nous a donné beaucoup, beaucoup d'amour, mais elle nous a tellement dit, là, si vous ne voulez pas souffrir dans la vie, là, allez à l'école. Ça a été toujours son message à ce jour.
Elle est arrivée à l'adolescence au Québec. Elle arrivait de quel pays, Marois, ta mère?
Ma mère est marocaine, donc elle arrivait du Maroc, okay. Avec pas grand-chose en poche, à part pour de vrai. Elle est venue au Québec, c'est gagnant à la loterie. Là. Puis à ce jour, elle n'a jamais été aussi reconnaissante que d'être au Québec. Elle a tout ce qu'on a eu, en fait, ça a été grâce à notre système québécois, à notre santé, ma soeur, les soins qu'elle a eus. Ma soeur, là, les médecins disaient à ma mère qu'elle ne va jamais parler. Puis finalement, il y a eu des médecins, puis des chercheurs, des professeurs qui sont penchés sur le cas de ma soeur. Puis finalement, à l'âge de 12 ans, ma soeur a commencé à parler. Mais tout ça, c'est des petits miracles qui ont fait qu'on était capable, nous, d'avoir un baume sur d'autres cicatrices qui sont beaucoup plus profondes, là.
Et elle a rencontré ton père une fois arrivé au Québec, c'est ça?
Oui, ils se sont rencontrés ici durant un party de Noël. Party de Noël, le jour de l'an, là, puis finalement, ils ont eu 4 enfants ensemble, mais ça a été, tu sais, il n'est pas viré monstre du jour au lendemain, mais rapidement, son emprise, là, il l'a eu là, sur elle. Là.
Est-ce que tu as déjà parlé de ça avec ton père? Est-ce que tu l'as déjà confronté à ça?
Oui, moi, j'ai confronté mon père quand même. Et moi, je priais, quand j'étais petite, là, je voulais être grande. Je voulais être plus grande que lui. Je voulais être physiquement capable de m'imposer. Puis c'est drôle, je suis la seule qui est grande dans ma famille. Puis très rapidement, au cégep, à l'université, quand je suis arrivée en droit, dans le cours droit de la famille, puis il y a eu le cours où est-ce qu'on parlait de l'aliénation parentale, j'ai eu un gros déclic. Je me disais, c'est ça qu'il a fait. Il a tellement voulu nous monter contre notre mère. C'est épouvantable tout ce qu'il faisait. Il nous engueulait, à un moment donné, il est allé faire l'épicerie, puis il nous engueulait, il disait appelez tout de suite le 911 pour dire que votre mère vous a abandonné. Alors que c'était faux, là. Il était à l'épicerie, puis il nous chicanait, puis moi, je voulais pas appeler le 911 pour ma mère. Puis finalement, ma mère revenait, puis c'est lui qui l'avait appelé, la police est là, puis ma mère arrive avec les sacs d'épicerie. Alors, il essaie même de montrer que c'était elle la mauvaise mère, alors qu'elle n'a jamais parlé de façon négative de mon père, alors qu'elle aurait pu. Elle nous a toujours protégés d'un amour alors que lui ne faisait que dire des affaires négatives sur elle. Il en inventait. Puis plus tard, quand j'ai confronté, il a toujours nié. Ça, c'est jamais arrivé. C'était juste de me corriger.
Alors, il était dans le déni? Ah oui?
Pire que ça, il dit, Marois, en fond, parce qu'il me traitait quotidiennement de bonne à rien. Il m'a dit, Marois, si je t'avais pas poussé, t'aurais été vraiment une vraie de vraie bonne à rien.
Bonne à rien?
Oui.
Puis tu lui répondais quoi?
Ben, je ne pouvais pas répondre à ça, Bernard. Là. Qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un qui est misogyne? Puis il n'a pas été chanceux, il a eu 3 filles, plus un gars. Mais tu sais, ça a toujours été comme ça. Là. Il n'a jamais changé. Puis durant la pandémie, moi, je faisais l'épicerie pour les aînés. Puis je me dis, tu sais quoi? Tu es capable, Marois, de faire l'épicerie pour des étrangers que tu ne connais pas. Va donc faire l'épicerie quand même. Attends, à la fin de la journée, il est quand même vieux, ton père. Mon père, il est quand même un écart significatif d'âge avec ma mère. Donc, je suis allée porter l'épicerie, puis m'a parlé. Puis, c'était comme si ça n'était jamais arrivé. Jamais. Alors, ça faisait quand même plusieurs années qu'on se parle, mais une fois par année. Alors, non, là-dessus, lui, ça, il n'est pas capable de reconnaître ses torts.
Et ta mère?
Ma mère, dès qu'elle a pu vraiment se scolariser, ça a été le jour et la nuit. Une femme métamorphosée, complètement indépendante. Là, il n'y a plus personne qui peut lui crier dessus, lui marcher dessus. Il y a elle, que ça a été vraiment très, très bénéfique. Puis je te dirais aussi, ma sœur des sciences intellectuelles a eu des grands gains depuis que, justement, il n'y a pas toute cette atmosphère négative. Ma mère, ça a été vraiment le jour et la nuit. Une femme transformée, c'est rendu que c'est elle qui a des femmes qui ont vécu ça, qui conseillent, puis que non, elle dit, si tu tolères une affaire en matière de violence, ça peut commencer par une remarque sur ton intelligence, sur ton physique, après ça, la gifle est pas loin. Une fois que tu as passé la gifle, la prochaine fois, ça va être le coup de poing. Alors, tu sais, c'est aussi de reconnaître là, les traits de ces gens qui pensent qu'on peut régler nos problèmes à coup de poing. Là.
Et toi, est-ce que tu as gardé des séquelles de ça, tu penses?
Mais moi, c'est sûr que j'ai le trémolo en ce moment parce que j'ai réglé ça. Je pense j'ai eu la grande discussion quand j'étais au cégep puis à l'université de ça avec maman. Puis par la suite, j'ai cru que j'ai comme tourné la page et je crois que pourquoi j'en ai parlé au franc-tireur à posteriori, j'en parlais avec une personne qui m'est proche, l'écrivaine dont je te parlais, Brigitte Pilote, c'est que quand j'ai fait du remplacement de la suppléance dans une de mes classes, il y a une jeune fille de 5e année, on parlait, je lisais un conte de lecture, puis on doit deviner des mots. Et dans le mot, il y avait emprisonné. Je disais, savez-vous, c'est quoi être emprisonné? Puis là, une des élèves a dit, oui, c'est quand que mon père me met dans ma chambre pendant 3 jours. Je dis, mais non, il ne peut pas te mettre dans 3 jours. Elle dit, oui. Je dis, non, il doit te mettre quelques minutes en punition. On dit, non, pendant 3 jours. Puis Puis c'est ça. Alors là, j'avoue, je dis, est-ce que ton père te fait encore ça? Je dis, non, mes parents ont séparé, puis on voit plus mon père. Ça m'a comme ramené ce que moi, j'ai déjà vécu. J'avais juste envie de la prendre dans mes bras, puis lui dire, inquiète-toi pas, là, ça va bien aller, là, pareil, là, même si tu as vécu ça. Ben, évidemment, je peux pas la prendre dans mes bras parce que on sait que la COVID, distanciation, mais j'avais juste envie de la prendre dans mes bras.
Et après que tu aies donc témoigné, comme tu le fais présentement, tu as reçu beaucoup, beaucoup de messages, justement, de jeunes filles et de jeunes garçons, mais surtout de jeunes filles, si je comprends bien, qui se sont identifiées à ton histoire, n'est-ce pas?
Énormément. Et puis c'est beaucoup des élèves du secondaire qui m'ont écrit, qui ont vu que ça, qui se demandent, est-ce que c'est normal? Puis surtout, je pense qu'ils ont réalisé que c'était pas unique à leur famille. Puis même moi, Bernard, quand j'étais plus petite, j'en parlais à personne, j'avais tellement honte, mais tellement honte, que j'ai jamais cherché de l'aide auprès de mes amis à l'école. Là. Tu veux pas en parler, t'as moins de honte. Puis un de mes groupes du primaire, ma classe, on a un petit groupe Facebook où on écrit, Marco me dit, Marois, jamais que j'aurais pensé ça, jamais j'aurais su ça. Mais évidemment, tu caches ça. Alors, je crois que les jeunes filles qui ont écrit, c'est qu'elles étaient un petit peu soulagées de savoir que c'est pas seulement dans leur famille que c'est arrivé, puis que oui, il y a des outils, puis que oui, tu peux quand même réussir ta vie, puis c'est ça que je veux leur dire. La meilleure façon de faire un pied de nez à votre parent méchant, là, c'est d'être bon à l'école, puis leur montrer que non, même s'ils veulent vous écraser, là, ils ne peuvent pas avoir une emprise sur vous toute votre vie, là, puis à 18 ans, de pouvoir de dire, mais regarde, je peux aussi choisir si tu veux être encore dans ma vie ou pas. C'est pas un droit acquis d'être un père à vie, là, ou d'être une mère à vie non plus. C'est sûr que dans une plus grande proportion, les parents violents, c'est plus souvent le père que la mère, là, malheureusement. Mais il ne devrait jamais avoir de parents violents, mais c'est ça pareil, on a une réalité. Là.
Je suis très content que tu aies accepté de nous parler. Je sais que c'est difficile. Je ne voulais pas que les gens pensent que tu faisais ça parce que tu cherchais à passer pour une victime ou tu sais, il y a toujours des gens qui pensent que quand on témoigne comme ça, que puis surtout quand on est en politique, je le sais, je suis passé par là, ils pensent qu'on cherche de la publicité puis qu'on fait ça pour le gain, tu comprends?
Je comprends. Puis ma mère a pas trop aimé ça parce que le lendemain à l'épicerie, il y a des gens qui pensaient qu'elle était encore une femme battue, puis lui en parlait. Puis elle me dit, là, Marois, tout le monde pense que je suis encore une femme battue. Je dis, oh, maman, inquiète-toi pas. Là, ça va passer. Mais non, mon objectif, c'était pas ça. Puis c'était probablement un mélange de mes émotions, de ce que je venais de vivre à l'école, puis aussi que je t'ai rendu là peut-être de le dire, là, qu'effectivement, là, j'ai pas malheureusement eu la famille idéale, elle était dysfonctionnelle, puis c'est plate Bernard, mais ma famille va toujours rester dysfonctionnelle là, avec ce qui est arrivé dans l'enfance. Là. On sera jamais une famille réunie, enjouée, là. Ça arrivera pas. Là.
Mais tu as réussi à surmonter ça, puis tu es allé à l'université de Sherbrooke, puis à l'université en Floride, et puis tu es député depuis 2018. Et là, ben, tu vas peut-être inciter des jeunes filles et des jeunes garçons à dénoncer, puis à avoir le courage de passer au travers, en se disant, ben, j'ai écouté Marois, puis Marois, ben, elle a été capable de passer au travers. Fait que moi aussi, je vais puiser en moi pour trouver la force pour passer au travers, comme Marois a réussi à le faire. C'est ça.
Ben c'est ça qu'on j'espère. Puis ça, je vais te raconter une dernière affaire, si tu permets, Bernard. Mm-hmm. Il y a deux semaines environ, il y a une femme qui s'appelle Isabelle qui m'a écrit. Elle me dit, oh, j'ai besoin de toi. Je sais plus à quelle porte elle connaît. Mon amie, elle vient de se prendre un appartement, mais elle vient d'apprendre qu'elle a le cancer. Elle n'a pas de sous, puis sinon, on va peut-être retourner avec son ex-conjoint, mais il est violent. On a besoin d'aide, on n'a pas d'aide juridique non plus. Alors, je l'ai mis en contact parce qu'elle habite dans le comté de Paul-Robitaille, mais tu sais, ça nous aussi à ça. On donne une petite porte d'entrée pour certaines personnes qui disent, oui. Regarde, je ne sais pas où aller. Oui. Oui. Elle m'envoie un message sur Facebook, puis Paul, c'est tout de suite viré de bord, elle a trouvé une avocate pour son amie, puis l'aider dans cette démarche pour justement pas qu'elle retourne dans le cercle vicieux. Parce que c'est vrai, quand tu n'as nulle part où aller, quand tu es une femme battue, là, tu as tendance à vouloir retourner à la résidence familiale parce que tu dis, c'est aussi ma maison à moi, c'est la maison de mes enfants. Puis là, tu as le cancer, tu n'as pas de job, tu n'as pas de salaire qui va rentrer pour faire face aux défis. Au moins, si une autre femme qu'on peut aider, puis c'est sûr que je serais pas capable d'aider tout le monde, là, j'ai même pas les ressources pour tout le monde, puis je vais vous dire très franchement, même moi, je profitais du temps des fêtes pour décanter ça, parce que j'avais caché ça, Bernard, très, très loin, là, très, très loin dans mes souvenirs.
Joyeux Noël, Marois.
Merci, Bernard.
Repose-toi, prends soin de toi.